Exposé des sept âges de l'Église. Âge de l'Église de Philadelphie. Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais venir se prosterner à tes pieds et connaître que tu t'es aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Philadelphie. Philadelphie s'est trouvée à 75 120 km au sud-est de Sardes. C'était la seconde ville de Lydie. Elle était construite sur plusieurs collines, dans une région célèbre pour ses vignobles. Ses pièces de monnaie portaient une effigie de Bacchus et une bacchante, prêtresse de Bacchus. Sa population comprenait des juifs, des chrétiens d'origine juive et des païens qui s'étaient convertis au christianisme. La ville eut à subir de nombreux tremblements de terre. Pourtant, parmi les sept cités de l'Apocalypse, c'est elle qui dura le plus longtemps. En fait, elle existe toujours sous le nom turc d'Al-Aseir, c'est-à-dire la cité des dieux. L'empreinte des pièces de monnaie nous suggère que le dieu de cette ville était Bacchus. Or, Bacchus correspond à Ninus ou Nimrod. Il est celui que l'on pleure, bien que pour la plupart d'entre nous, il évoque les orgies et l'ivresse. Voilà qui répand la lumière dans nos esprits. Nous avons ici une pièce de monnaie qui porte d'un côté les dieux et de l'autre la prêtresse ou prophétesse. Or, jeter une pièce en l'air, est-ce que cela fait une différence si elle tombe d'un côté ou de l'autre? Non, messieurs, c'est toujours la même pièce. Voilà la religion catholique de Jésus et Marie. Mais nous ne pensons pas seulement à Rome, non. Il n'y a pas que la grande prostituée, certainement pas. En effet, elle est devenue mère par ses fornications. Ses filles sont des pièces de la même frappe. D'un côté, elles ont établi un culte de Jésus, et de l'autre, elles ont aussi leur prêtresse ou prophétesse qui rédige ses credos, ses dogmes et ses doctrines et les vend aux gens pour leur assurer le salut en proclamant qu'elle et elle seule possède la vraie lumière. Il est saisissant de constater à quel point cette tâche est marquée par la monnaie, car les filles, comme la mère achète toute leur entrée au ciel à prix d'argent. Ce n'est pas le sang, c'est l'argent qui est le prix du rachat. Ce n'est pas l'esprit, c'est l'argent qui est leur moteur. Le dieu de ce monde, Mammon, a aveuglé leurs yeux. Mais leur commerce de mort cessera bientôt, car c'est dans cette tâche que l'esprit crie. Voici, je viens bientôt. Oui, viens bientôt, Seigneur Jésus. L'âge. L'âge de l'église de Philadelphie s'étend de 1750 aux environs de 1906. À cause de la signification du nom de la ville, cet âge a été appelé l'âge de l'amour fraternel, car Philadelphie signifie « amour fraternel ». Le messager. Il ne fait aucun doute que le messager de cet âge était John Wesley. John Wesley, né à Epworth le 17 juin 1703, était l'un des 19 enfants de Samuel et Susanna Wesley. Son père était aumônier dans l'église anglicane, mais la tournure d'esprit religieuse de John vient certainement beaucoup plus de la vie exemplaire de sa mère que de la théologie de son père. John fut un brillant érudit. Cependant, son séjour à Oxford, que lui et Charles se joignirent à un groupe exercé spirituellement à adorer Dieu en vivant selon la vérité par une espérance réelle plutôt qu'en se contentant de faire des doctrines leurs normes. Ils firent une sorte de guide spirituelle d'œuvre telle que de donner aux pauvres, de visiter le malade et le prisonnier. C'est pour cela qu'on les affubla par dérision du nom de méthodistes et d'autres noms encore. Or, John voyait combien le peuple du monde avait besoin des religions. Et il les vit d'une manière tellement claire qu'il partit comme missionnaire en Amérique, en Géorgie, pour évangéliser les Indiens. Pendant le voyage, il découvrit que de nombreux passagers du bateau étaient des frères moraves. Leur humilité, leur esprit pacifique et leur courage en toutes circonstances l'impressionnèrent profondément. En dépit de son abnégation et de son travail acharné, ses efforts en Géorgie se soldèrent par un échec. Il retourna en Angleterre en disant « Je suis allé en Amérique pour convertir les Indiens, mais oh, moi, qui me convertira ?» De retour à Londres, il reprit contact avec le frère Morave. Ce fut Pierre Boyler qui lui montra le chemin du salut. Il passa réellement par la nouvelle naissance, au grand désarroi de son frère Charles qui se mit fort en colère, ne pouvant pas comprendre comment un homme aussi spirituel que John puisse dire qu'il n'était pas en ordre avec Dieu auparavant. Pourtant, peu après, Charles fut lui-même sauvé par la grâce. Wesley commença alors à prêcher l'évangile à Londres, du haut des chairs où il avait accès auparavant. Mais bientôt, on ne voulut plus de lui. C'est alors que Whitefield, un ami de longue date, lui fit d'un grand secours, quand il invita John à venir l'assister, en prêchant avec lui en plein air, où des milliers de personnes venaient écouter la parole. Au début, Wesley ne pensait pas qu'il était judicieux de prêcher en plein air plutôt qu'en salle. Mais quand il vit les foules qui se rassemblaient et l'action de l'évangile par la puissance de l'esprit, il se rallia de tout son cœur à ce genre de prédication. L'œuvre prit bientôt de telles dimensions qu'il envoya pour prêcher la parole de nombreux prédicateurs laïcs. C'était comme à la Pentecôte, où l'esprit suscita presque du jour au lendemain des hommes ayant le pouvoir de prêcher et d'enseigner la parole. Son œuvre fit l'objet de violentes oppositions, mais Dieu était avec lui. L'action et l'esprit se manifestaient avec puissance, et il arrivait souvent qu'un esprit de culpabilité saisisse les gens avec une telle puissance qu'ils s'écroulaient sans force, pleurant de désespoir à la vue de leur péché. Wesley était un homme remarquablement résistant. Il ne se souvient pas d'un seul moment de son existence où il se soit senti déprimé, ne serait-ce que pour un quart d'heure. Il ne dormait pas plus de 6 heures par jour. Il se levait assez tôt pour pouvoir prêcher dès 5 heures, et ceci à peu près tous les jours pendant toute la durée de son ministère. Il lui arrivait de prêcher jusqu'à 4 fois par jour, arrivant ainsi à une moyenne de plus de 800 prédications par année. Il faisait des milliers de miles à cheval, de même que le prédicateur itinérant qui œuvrait avec lui pour répandre l'évangile auprès et au loin. De fait, Wesley faisait 4 500 miles, 7000 kilomètres par an à cheval. Il croyait à la puissance de Dieu et priait pour le malade avec une grande foi, obtenant des résultats merveilleux. Nombreuses furent les réunions où les dons de l'esprit se manifestaient. Wesley ne préconisait pas l'organisation. Il est vrai que ses collaborateurs avaient formé une société unie, qui était une assemblée d'hommes ayant les signes apparents de la piété et recherchant ce qui en fait la force, unis afin de prier ensemble, de recevoir la parole d'exhortation et de veiller les uns sur les autres dans l'amour, de manière à s'aider mutuellement à travailler à leur salut. Une seule condition était requise pour y entrer, être de ceux qui avaient le désir de fuir la colère à venir et d'être sauvés de leurs péchés. Peu à peu, ils établirent une liste des règles strictes, s'imposant une discipline pour le bien de leur âme. Wesley reconnut qu'il se pouvait qu'après sa mort, le mouvement s'organise et ne devienne plus qu'une forme extérieure, dépourvue de vie, parce qu'alors l'esprit se retirerait. Il dit une fois qu'il ne craignait pas que le nom de méthodiste disparaisse de la face de la terre, mais que l'esprit, lui, se retire. Au cours de sa vie, il aurait pu acquérir de grandes richesses, mais il ne les fit jamais. Au sujet de l'argent, il aimait à dire « Obtenez tout ce que vous pouvez, épargnez tout ce que vous pouvez et donnez tout ce que vous pouvez. » Si Wesley revenait, il serait vraiment surpris de voir cette dénomination qui porte aujourd'hui le nom de méthodiste. Ils sont riches, immensement riches, mais la vie et la puissance de John Wesley manquent. Mentionnons aussi que Wesley ne chercha jamais à construire une œuvre fondée sur un esprit de secte ou de dénomination. Par ses convictions, il était arminien, mais il ne voulait pas se séparer de ses frères dans la foi pour des raisons de doctrine. Il aurait fait un bon disciple de Jacques. Il établit sa vie éternelle sur la foi et les œuvres, c'est-à-dire la vie vécue, plutôt que de se contenter d'accepter un credo et une doctrine. John Wesley mourut à l'âge de 88 ans, après avoir servi Dieu comme peu de gens auraient pu imaginer que ce soit possible. La salutation. Apocalypse chapitre 3 verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit les saints, les véritables, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oh, que ces paroles sont belles, qu'elles sont même en eux majestueux, comme il est saisissant de penser que tous ces attributs peuvent s'appliquer à une même personne, qui d'autre que Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, oserait dire de telles choses de lui-même. Je crois que la clé qui nous permet d'interpréter avec exactitude l'essence de ces paroles merveilleusement descriptives se trouve au verset 9. Voici, je te donne des cieux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Je dis que ce verset est la clé parce qu'il parle des juifs qui se sont toujours donné le nom d'enfants de Dieu en excluant tous les autres. Ils ont crucifié et mis à mort le Seigneur Jésus-Christ. Pendant des siècles, cet acte terrible a fait retomber leur propre sang sur leur tête. Et tout cela parce qu'ils ont refusé de reconnaître en Jésus leur Messie. C'était pourtant lui. À leurs yeux, il n'était pas celui qui vient, ou le fils de David. À leurs yeux, il était Belzébul, ou quelque créature impure, juste bonne à être détruite. Mais il s'est trompé. Il était bien Emmanuel, Dieu manifesté dans la chair. Il est bien le Messie. Bien sûr, il était exactement ce qu'il affirme d'être maintenant. C'est lui, le même Jésus, Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le saint qui se trouve au milieu des chandeliers est le même Jésus qui longeait les rivages de la Galilée, qui guérissait le malade, qui ressuscitait les morts et qui, malgré les preuves irréfutables, fut crucifié et mis à mort. Mais il est ressuscité, il est assis à droite de la majesté dans les lieux très hauts. À l'époque, les Juifs ne disaient pas de lui qu'il était saint. Ils ne le disent toujours pas. Pourtant, il est le saint. Psaume 16, 10. Car tu n'abandonneras pas mon âme au Sheol. Tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Version Derby. Ils recherchaient leur justice dans la loi. Et ils ont échoué lamentablement, car aucune chair ne peut être justifiée par la loi. Personne ne peut devenir saint par la loi. La sainteté vient du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice et sanctification et rédemption. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21b. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu, c'était Christ au périr, et ils ont péri parce qu'ils l'ont rejeté. Les hommes de cet âge ont fait la même erreur, et aussi ceux d'aujourd'hui. De même que les Juifs se sont réfugiés dans la forme d'un culte rendu dans la synagogue, de même les hommes de l'âge de Philadelphie ont pris refuge dans l'église. Ce qui compte, ce n'est pas de se joindre à une église. La vie n'est pas dans l'église, la vie est en Christ. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. L'homme est sanctifié par l'Esprit. C'est l'Esprit de sainteté qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui demeure en nous maintenant et nous sanctifie par sa sainteté. Le voici, le Saint. Et nous nous tiendrons avec lui, vêtus de sa justice et saints de sa sainteté. Or, cet âge est le sixième âge. Aux yeux de Dieu, la fin du temps est proche. Il va bientôt revenir. Bientôt le cri retentira au moment de sa venue. Que celui qui est suivi s'essuie encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse chapitre 22, verset 11b. Oh, combien je suis heureux que ma sainteté ne vienne pas de moi-même. Je suis heureux d'être en Christ et ayant reçu tout le merveilleux attribut de sa justice. Oui, ils m'ont été accordés. Dieu soit béni à jamais. Voici ce que dit le véritable. Ce mot « véritable » est absolument merveilleux. Il ne signifie pas seulement « véritable » au sens de « vrai » par opposition à « faux ». Il exprime la réalisation parfaite d'une idée par rapport à sa réalisation partielle. Rappelons par exemple que Jésus a dit dans Jean chapitre 6, verset 32 « Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel ». Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean chapitre 15 verset 1. Je suis le vrai cep. Hébreux chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans les cieux lui-même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. 1 Jean chapitre 2, verset 8. Car les ténèbres se dissipent, et la lumière véritable paraît déjà. Comme ces mots expriment en effet, tel qu'il l'illustre dans ces versets, la réalisation parfaite par rapport à l'idée des réalisations partielles, nous pouvons maintenant comprendre comme jamais auparavant la notion d'antitype par rapport au type, et celle d'objet par rapport à l'ombre. Prenez par exemple la manne du ciel. Pour Israël, Dieu a fait descendre du ciel le pain des anges, mais ce pain ne rassasiait pas, il n'était bon que pour un jour. Ceux qui en mangeaient avaient de nouveau faim le lendemain. Si on les gardait, les vers s'y mettaient. Mais Jésus est le vrai pain du ciel, alors que la manne n'en était qu'un type. Et si quelqu'un mange de ce pain qui vient du ciel, il n'aura plus jamais faim. Il n'a pas besoin de retourner en manger. Dès l'instant où il en prenait, il avait la vie éternelle. C'était bien cela la réalité. Plus besoin du nombre, plus besoin d'un salut partiel. Nous avons le salut complet. De même que Jésus n'est pas une partie de Dieu, il est Dieu. Personne ne pourrait nier qu'Israël avait la lumière. Ils étaient le seul peuple à posséder la lumière en tant que nation. C'est comme en Égypte, au moment où l'obscurité était telle qu'on n'aurait pu la toucher, cependant il y avait de la lumière dans les maisons des Israélites. Mais maintenant, la vraie lumière est venue. La lumière du monde, c'est Jésus. Moïse et les prophètes ont apporté la lumière par les moyens des Écritures qui annonçaient le Messie. C'est ainsi qu'Israël avait la lumière. Mais maintenant, l'accomplissement de la lumière est venu, et ce qui n'était que la parole rougeoyante a jailli dans tout l'éclat de Dieu, manifesté au sein de son peuple. Alors que la colonne de feu répandait la lumière pendant la nuit, ce qui était merveilleux, maintenant la lumière et la vie étaient manifestées dans la plénitude de la divinité dans un corps. Israël prenait la génisse rousse et la sacrifiait sur l'autel pour la rémission des péchés. Pendant une année, les péchés des coupables étaient couverts. Mais couvrir les péchés ne pouvait pas enlever les désirs des péchés. Ce n'était pas une offrande parfaite. C'en était l'ombre qui devait durer jusqu'au moment où le vrai sacrifice viendrait. Ainsi, chaque année, l'homme devait offrir un sacrifice et chaque année il devait revenir parce qu'il avait toujours le même désir des péchés. La vie de l'animal servait à expier les péchés de l'homme, mais comme le sang versé n'était que le sang d'un animal, et que la vie sacrifiée n'était que celle d'un animal, cette vie ne pouvait pas revenir sur l'homme, et même si elle était revenue, elle n'aurait pas été utile. Par contre, quand Christ, le substitut parfait, a été offert, et que son sang a été versé, alors la vie qui était en Christ est revenue sur les pécheurs repentants. Et comme cette vie était la vie parfaite de Christ, juste et sans péché, les coupables étaient alors libérés, car ils n'avaient plus le désir de pécher. La vie de Jésus était revenue sur lui. C'est ce que signifie Romains chapitre 8, verset 2. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Mais les Juifs du temps de Jésus ne voulaient pas accepter ces sacrifices. Le sang des taureaux et des boucs n'amenait rien à la perfection. C'était la manière de faire que Dieu avait instituée pour un temps passé. Mais maintenant, Christ était venu dans un corps de chair. Alors, par son sang versé, il a éliminé le péché et cette offrande qu'il a faite de lui-même nous a rendus parfaits. Les Juifs n'ont pas voulu accepter cela, mais qu'en est-il de ces tâches de Philadelphie? Oui, et qu'en est-il des autres âges? Ont-ils vraiment accepté cette réalité en Christ? Non, messieurs. Luther a eu beau apporter la vérité sur la justification. L'Église catholique et sa contrepartie orientale, l'Église orthodoxe, sont quand même restées attachées aux œuvres. Or, les œuvres sont une bonne chose, mais elles ne sauvent pas, elles ne rendent pas parfait. C'est Christ ou périr. Même pas Christ et les œuvres, mais Christ tout seul. C'est avec ces tâches que débuta la période de l'arminianisme, qui ne croit pas que Christ est la réalité. Il ne chante pas, rien que le sang. Il chante, rien que le sang et ma bonne conduite. Pourtant, je prends une bonne conduite. Si vous êtes sauvés, vous marcherez selon la justice, comme nous l'avons déjà vu. Mais là, je vous dis bien que le salut, ce n'est pas Jésus plus quelque chose. C'est Jésus seul. Le salut vient de l'Éternel. Du commencement à la fin, tout vient de Dieu. Que sa vie soit en moi. Que son sang me purifie. Que son esprit me remplisse. Que sa parole soit dans mon cœur et ma bouche. Que ses meurtrissures me guérissent. que ce soit Jésus et Jésus seul, non à cause des œuvres de justice que j'aurais faites. Non, messieurs, Christ est ma vie. Amen. Je pourrais facilement continuer à vous parler de ces vérités indéfiniment, mais je vais seulement vous apporter encore une pensée. C'est celle qui se dégage de ce magnifique cantique d'Abbé Simpson. Autrefois, c'était la bénédiction. Maintenant, c'est le Seigneur. J'ai eu les sentiments. Maintenant, j'ai sa parole. Autrefois, je voulais ses dons. Maintenant, c'est le donateur que je veux. Autrefois, je voulais ses dons. Maintenant, c'est le donateur que je veux. Le tout en tout pour toujours. C'est Jésus que je chanterai. Tout est en Jésus. Jésus est tout. Tout ce qu'on peut trouver dans cette vie, aussi satisfaisant, aussi bien et bon que ce soit, n'est rien. Mais en Christ, vous trouverez la somme de toute la perfection. Tout s'estompe et devient insignifiant à côté de lui. C'est lui qui a la clé de David. Cette belle proposition suit et provient de la précédente, les véritables. Christ, la réalisation parfaite par rapport à la réalisation partielle. C'est bien cela. Moïse était un prophète de Dieu, mais Jésus, dont Moïse est l'image, était le prophète de Dieu. David, un homme selon le cœur de Dieu, était roi d'Israël, mais Jésus est le grand David, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Dieu, Dieu lui-même. Or, David était de la tribu de Juda, tribu qui ne fournissait pas de sacrificateurs, et pourtant il mangea des pains de propositions réservées aux sacrificateurs. Il était un grand guerrier, triomphant de ses ennemis et affermissait son peuple. Il était roi, et à ce titre, il s'assit sur le trône. Il était prophète, il était un type merveilleux de Christ. Or, il est dit dans Ésaïe chapitre 22, verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » L'Esprit utilise cette référence tirée de l'Ancien Testament concernant le Seigneur Jésus-Christ et son ministère dans l'Église. La signification de la clé de David pour ce temps-là n'était qu'une ombre, mais elle a maintenant son accomplissement, alors que Jésus se tient au milieu des chandeliers. Tout cela se rapporte à notre Seigneur après sa résurrection et non pas au temps de son pèlerinage terrestre. Mais que signifie cette clé? La réponse se trouve dans la position de la clé. Elle n'est pas dans sa main, elle n'est pas suspendue à son cou, elle n'est pas remise entre les mains d'autres hommes. Sinon, les versets ne pourraient pas dire que lui seul a l'usage de cette clé, car lui seul ouvre et ferme, et personne n'a ses droits, à part Jésus lui-même. Pas vrai? Mais où est la clé? Elle est sur son épaule. Mais pourquoi l'épaule? Lisez Ésaïe chapitre 9, verset 6. « Et le gouvernement sera sur son épaule. » Version Darby. Qu'est-ce que cela signifie? Voici la réponse. L'expression « le gouvernement sur son épaule » vient de la cérémonie du mariage, telle qu'elle est pratiquée en Orient. Au moment où la mariée est confiée au marié, elle enlève son voile et le place sur les épaules du marié. Ce geste signifie non seulement qu'elle s'est soumise à lui, c'est-à-dire qu'elle lui abandonne ses propres droits, qu'il est le chef, mais aussi qu'il porte la responsabilité qu'il prendra soin d'elle et que lui est lui seul, personne d'autre, aucun autre homme, aucune autre puissance, n'a sur elle aucun autre droit ni aucune responsabilité. Et la clé de David, bien-aimé, c'est cela, comme il est souverain. Dieu, par un décret divin, connaissait à l'avance très précisément ce qui ferait partie de son épouse. Il l'a choisi. Ce n'est pas elle qui l'a choisi. Il l'a appelé. Elle n'est pas venue d'elle-même. Il est mort pour elle. Il l'a lavé par son propre sang. Il a payé le prix pour elle. Elle lui appartient et n'appartient qu'à lui seul. Elle lui appartient complètement. Il en accepte la responsabilité. Il est son chef, car Christ est le chef de son Église. De même que Sarah appelait Abraham Seigneur, ainsi l'épouse est heureuse qu'il soit son Seigneur. Il parle et elle obéit, car cela fait sa joie. Mais les hommes ont-ils pris garde à cette vérité? Ont-ils eu quelques considérations pour sa personne qui, elle seule, possède toute autorité souveraine sur son Église? J'ai dit non, car dans chaque âge, l'Église a été gouvernée par une hiérarchie, un clergé, une succession apostolique qui fermait la porte de la grâce et du pardon à qui elle voulait, et qui, au lieu d'assumer avec amour la responsabilité de l'Église, a fait de l'Église sa proie et l'a détruite dans son ardeur mercenaire. Le clergé vivait dans le luxe, alors que la pauvre Église n'avait pas à se nourrir que les résidus de leur violence. et tous les âges ont fait de même. Chacun s'est mis sous les joug de l'organisation, remettant les gouvernements à des hommes et livrant l'Église à ses gouvernements. Si des gens osaient se soulever, on usait des violences pour les faire taire ou on les exilait. Chaque dénomination est animée du même esprit. Chaque dénomination jure que c'est elle qui a la clé du gouvernement de l'Église. Chaque dénomination prétend que c'est elle qui ouvre la porte. Mais ce n'est pas vrai. C'est Jésus et Jésus seul. C'est lui qui place le membre dans les corps. C'est lui qui suscite le ministère parmi eux. Il met ses dons à la disposition de son épouse. Il prend soin d'elle et il la conduit. Elle n'appartient qu'à lui seul et n'en a pas d'autre. Combien d'églises de ces tâches dans lesquelles nous vivons se trouvent loin de la réalité? Et le jour vient bientôt où les hommes même qui prétendent maintenant parler au nom de l'Église s'élèveront dans les mouvements œcuméniques pour mettre à la tête de leur organisation un antichrist en chair et en os. Un antichrist qui déposera le Seigneur. Et le Christ, lui, nous les trouvons en dehors de l'Église, disant « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. » Apocalypse chapitre 3, verset 20. Mais laissez-moi dire ceci, on ne met pas notre Seigneur en échec. Les hommes prétendent ouvrir la porte à Dieu et fermer cette porte, mais ce sont des menteurs. Tout ce que le Père lui a donné viendront à lui, et celui qui vient à lui ne sera aucunement rejeté. Il ne perdra aucun d'entre eux. Jean chapitre 6, verset 37 à 39. Et quand le dernier membre élu du corps de Christ sera entré, alors notre Seigneur apparaîtra. La clé de David. David n'était-il pas le roi d'Israël, de tout Israël? Et Jésus n'est-il pas le fils de David, puisqu'il s'assiera sur le trône de David pendant le millénium et qu'il gouvernera et régnera sur son héritage? C'est certain. Ainsi, la clé de David signifie que c'est Jésus qui établira le millénium. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts, ressuscitera les siens pour qu'ils aient part à son règne de justice sur la terre. Comme il est merveilleux de constater que c'est en notre Seigneur qui se trouvent toutes les réponses. C'est vraiment en lui que toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. C'est vraiment en étant en lui que nous sommes héritiers de ce qu'il a acquis pour nous. Oui, le voici, le Seigneur de gloire. Auparavant, en tant que Père, il était entouré d'anges, d'archanges, de chérubins, de séraphins et toute l'armée des cieux qui criait « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées ». Sa sainteté est telle qu'aucun homme ne pouvait l'approcher. Mais nous le voyons maintenant dans l'Église, partageant sa propre sainteté avec nous, au point qu'en lui nous sommes devenus la justice même de Dieu. Oui, et le voilà qui est là, Jésus, le tout parfait, l'hélice de la vallée, l'étoile brillante du matin, le plus beau d'entre 10 000, l'alpha et l'oméga, la racine et la postérité de David, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le tout et en tout. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. En lui se trouve l'accomplissement parfait, bien qu'il y ait un temps où nous ne faisons aucun cas de lui. Maintenant, nous l'aimons dans une joie ineffable et glorieuse. Il se tient au milieu de l'Église et nous chanterons sa louange, car lui, le puissant conquérant, est le chef de l'Église qui est son épouse. Il a racheté cette épouse. Elle lui appartient. Elle est à lui seul. Elle prend soin d'elle. Il est notre roi et nous sommes son royaume, son bien éternel. Or, vous vous rappelez qu'au début du verset 7, j'ai dit que le verset 9 nous aiderait à les comprendre. J'espère que vous avez vu ce que je voulais dire. Jésus s'est présenté comme celui qui est saint, véritable ou la seule réalité, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et qui ferme. C'est l'exacte vérité. Ces mots les décrivent parfaitement. Mais les Juifs de ces temps-là l'ont refusé, lui et tout ce qu'il était. Ils ont rejeté leur Sauveur et tout ce qu'il était pour eux. Et les chrétiens de nom ont fait la même chose aujourd'hui. Ils ont fait exactement comme les Juifs. Les Juifs l'avaient crucifié et s'étaient ensuite attaqués aux vrais croyants. Les chrétiens de nom l'ont crucifié à nouveau et ils ont attaqué la vraie Église pour la détruire. Mais Dieu est fidèle et celui qui est au-dessus de tous reviendra. Alors il montrera qui est le seul souverain. Et alors, même qu'il démontrera ce qu'il est au monde, et que le monde entier se prosternera à ses pieds, le monde entier se prosternera en même temps aux pieds des saints, démontrant ainsi que les saints avaient raison dans leur position à son égard. Que Dieu soit béni à jamais. L'âge de la porte ouverte. Apocalypse chapitre 3 verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, car tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Version Darby. La première proposition de ces versets, je connais tes œuvres, est analysée dans les restes du verset, car leurs œuvres ont un rapport avec la porte ouverte, le peu de force, la porte et les noms. De manière à comprendre toute la richesse du sens contenu dans ces mots, voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Nous devons maintenant rappeler que chaque âge passe progressivement dans les suivants. Aucun âge ne s'est terminé brusquement, et aucun a commencé à un moment très précis. Mais au contraire, chacun s'est fondu dans les suivants d'une manière imperceptible. La transition entre cet âge et le suivant est particulièrement progressive. Cet âge ne se prolonge pas simplement dans le dernier âge, mais à bien des égards, le dernier âge n'est qu'un prolongement du sixième âge. Le septième âge, un âge très court, rassemble ses forces pour une œuvre rapide. Tout le mal de chaque âge s'y retrouvera, et pourtant aussi toute la réalité de la Pentecôte. Quand l'âge de Philadelphie arrive presque à sa fin, l'âge de Laodicée vient rapidement améliorer comme les blés à maturité pour la moisson. L'y est d'abord livré pour la brûler, mais amasser les blés dans mon grenier. Matthieu chapitre 13, verset 30. Veuillez bien garder en tête que l'âge des Sardes a marqué le début de la réforme et que cette réforme doit se poursuivre jusqu'à ce que le grain planté à la Pentecôte ait accompli le cycle complet, ayant été planté, arrosé, nourri, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il ait reproduit la semence d'origine. Pendant ces temps, l'ivraie qui avait été sémé devra suivre son propre cycle et être aussi moissonné. C'est exactement ce que nous voyons se produire. Pensez seulement aux saisons et vous aurez une très bonne image de tout cela. La plante que vous avez vue croître dans toute sa force en été se met tout à coup à monter en graines. On ne peut pas dire à quel moment exact l'automne a pris la place de l'été. Le passage se fait de façon imperceptible. Il en est de même pour les âges de l'Église et plus particulièrement pour les deux derniers. C'est à cet âge que Jésus dit « Je viens bientôt ». Verset 11. Le dernier âge est donc très court. Laodicée est l'âge de l'œuvre rapide. C'est un âge abrégé. Maintenant, nous allons nous étendre plus spécialement sur la porte ouverte que personne ne peut fermer. Je vais d'abord arrêter ma pensée sur la porte ouverte au sens de l'immense effort missionnaire de cet âge. Paul appelait « porte ouverte » un nouvel effort missionnaire pour le Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 12. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur mit ouvert une porte. Ainsi, en comparant les Écritures, nous voyons que cette porte ouverte signifie une diffusion de l'évangile jamais égalée à travers le monde. Je voudrais vous montrer quelque chose ici. Avec Dieu, les choses vont par trois, n'est-ce pas? C'est dans le troisième âge, l'âge de Pergame, que l'Église a été mariée à l'État. Les œuvres de Nicolaïtes étaient devenues la doctrine de Nicolaïtes. Cet âge était la porte ouverte pour la fausse vigne. Une fois soutenue par la puissance de l'État, elle est en fait devenue un système du monde, même si elle portait le nom des chrétiennes. Elle s'est alors propagée comme une traînée de poudre. Mais maintenant, trois âges plus tard, après un long et dur combat de la foi, voici la porte ouverte à la vérité. La parole du Seigneur a maintenant libre cours. Bien sûr, le cinquième âge avait préparé les voies de ce puissant mouvement, puisque c'était l'âge de l'exploration, de la colonisation, de l'invention de l'imprimerie, ainsi de suite. Comme il aurait été merveilleux que cette porte ouverte ait suivi l'exemple divin de la Pentecôte, qui nous est présenté dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Or, vous savez que c'est là l'exemple à suivre, car Jésus lui-même l'a affirmé, Marc 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit, Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaille avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Il ne leur a jamais dit d'aller par tout le monde établir des écoles bibliques. Il ne leur a pas non plus dit de distribuer de la littérature. Ces choses sont bonnes, mais ce que Jésus leur a dit de faire, c'est de prêcher l'évangile, de s'en tenir strictement à la parole, et alors les signes suivraient. C'est quand il envoie les 12 que nous voyons pour la première fois comment le royaume de Dieu doit être prêché. Dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 8, il leur a donné le mandat et les instructions suivantes. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, les publicains, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, les Cananites, et Judas, l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Le mystère qu'il leur a donné était en réalité son propre ministère, qu'il a partagé avec eux, car il est dit dans Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Or, beaucoup de gens pensent que seuls les apôtres ont reçu ce ministère de la part de notre Seigneur Jésus, et qu'ainsi le ministère s'est achevé quand ils sont morts. Il n'en est rien. Dans Luc chapitre 10, verset 1 à 9, nous voyons que, pendant son séjour sur terre, il avait déjà commencé à donner aux siens des ministères de puissance. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez. « Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. » Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Qui oserait nier le puissant ministère de Philippe? Qui oserait nier le puissant ministère d'Irénée, de Martin, de Colomban, de Patrick, et d'une foule d'autres qui ont eu l'onction de Dieu sur eux? Oui, c'est dans la Bible elle-même que nous trouvons le vrai chemin de la porte ouverte. Je voudrais ajouter mon témoignage à cela. La raison qui me pousse à le faire, c'est que je ne peux parler avec assurance que de ce que Dieu a fait dans ma propre vie. Si vous voulez bien excuser une remarque personnelle ici, je vous dirai ce qui me fait savoir avec certitude que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et que la puissance de Dieu est encore à la disposition de ceux qui veulent y croire et la recevoir. Au cours de ma tournée missionnaire en Afrique du Sud, Dieu a tellement béni ces voyages que, quand je suis arrivé à Durban, le seul endroit susceptible d'accueillir tout le monde était l'énorme champ de courses. le deuxième au monde en taille. La foule dépassait largement les 100 000 personnes. Pour des raisons de réglementation et d'ordre public, on avait dressé des barrières séparant les différentes tribus. Des centaines de policiers assuraient le maintien de l'ordre. Ces âmes affamées avaient parcouru de nombreux milles. Une reine était venue de Rhodésie, accompagnée d'un train de 27 voitures chargées d'indigènes. Les gens arrivaient, cheminant péniblement par monts et par veaux, sur des milles et des milles, portant sur l'air docieux de l'air qui avait besoin d'aide. Tout le pays fut ému par les œuvres puissantes manifestées par le Saint-Esprit. Un après-midi, alors que je commençais mon service, une femme musulmane monta sur l'estrade. Il y avait des milliers de musulmans présents à cette réunion. Comme elle se tenait devant moi, un missionnaire qui travaillait parmi les musulmans s'est mis à implorer doucement le Seigneur. « Oh, pour cette chère âme, oh, pour cette chère âme !» Il était dans le pays depuis bien des années. Et selon son propre témoignage, il n'avait vu qu'un seul musulman s'avancer pour recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Ce sont des descendants de Mèdes et de Perses dont les lois ne changent pas. Ils sont vraiment difficiles à gagner. Il semble que « musulman un jour, musulman toujours » est un principe qui fait loi chez eux. Eh bien, pendant que cette femme s'était née devant moi, je commençais à lui parler à travers les interprètes. Et à elle et au milieu des musulmans qui étaient là, j'ai dit, « N'est-il pas vrai que les missionnaires vous ont parlé d'un Jésus qui est venu pour vous sauver ?» Vous aurez dû voir les regards que les gens échangeaient quand j'ai dit cela. Ils me répondirent que c'était vrai. Alors je continuai et leur dis, « Mais les missionnaires vous ont-ils lu dans ces livres ?» J'ai levé ma Bible pour qu'ils puissent la voir, que ce même Jésus était un puissant guérisseur et qu'il vivrait dans son peuple à travers les âges jusqu'au jour où il viendrait de nouveau pour les prendre avec lui. Vous ont-ils dit que le même esprit qui était en Jésus était en eux et qu'à cause de cela, ils pourraient faire les mêmes œuvres puissantes que Jésus? Vous ont-ils dit que vous pouvez être guéri, tout comme vous pouvez être sauvé? Combien d'entre vous aimeraient voir ce même Jésus descendre parmi nous et faire la même chose qu'il a faite quand il était sur la terre, il y a bien longtemps? Il les désirait tous. Voilà une chose sur laquelle ils étaient tous bien d'accord. J'ai continué. Si Jésus, par son esprit, fait ce qu'il a fait quand il était sur la terre, alors croirez-vous à sa parole? Et cette femme musulmane était là, devant moi. L'esprit commença à agir à travers moi. Je lui dis, vous savez bien que je ne vous connais pas. Je ne connais même pas votre langue. Elle acquiesça. J'ai dit, pour ce qui est de vous guérir, vous savez que je ne le peux pas. Mais vous avez entendu le message de cet après-midi et vous m'avez compris. Son interprète indien me transmit sa réponse. Elle avait compris parce qu'elle avait lu le Nouveau Testament. Or, les musulmans sont descendants d'Abraham. Ils croient en un seul Dieu, mais ils rejettent Jésus en tant que fils de Dieu. Ils mettent à sa place Mahomet, qu'ils considèrent comme le prophète de Dieu. Il nie que Jésus est ressuscité après sa mort. C'est ce que leur prêtre leur enseigne, et ils y croient. J'ai dit, mais Jésus est réellement mort et ressuscité. Il a envoyé son esprit sur l'église. Cet esprit qui était en lui est le même esprit qui est maintenant dans l'église. Il a le pouvoir de faire ce que Jésus a fait, et le fera. Il a dit dans Jean chapitre 5 verset 19, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Par conséquent, si Jésus vient et me révèle la nature de votre maladie, ou la raison pour laquelle vous êtes ici, s'il peut me dire quel a été votre passé, alors vous pourrez sûrement croire pour ce qui est de l'avenir, n'est-ce pas? Elle a dit par l'interprète, oui. J'ai dit, très bien, pousse-t-il me parler? Ce musulman était là qui observait attentivement. Ils se penchaient tous en avant pour voir ce qu'il allait se passer. Alors le Saint-Esprit parla. Votre mari est un homme court et trapu. Il a une moustache noire. Vous avez deux enfants. Il y a environ 3 jours, vous êtes allé chez le médecin et il vous a examiné. Vous avez un kyste de l'utérus. Elle inclina la tête et dit, c'est vrai. Je lui ai demandé, comment se fait-il que vous soyez venu vers moi, un chrétien? Pourquoi n'êtes-vous pas allé chez votre prophète musulman? Elle dit, je pense que vous pouvez m'aider. J'ai dit, je ne peux pas vous aider, mais si vous recevrez Jésus-Christ comme votre sauveur, alors lui qui est ici en ce moment même et qui sait tout sur vous, il vous aidera. Elle dit, j'accepte Jésus comme mon sauveur. Et voilà, elle a été guérie. Et environ 10 000 musulmans sont venus à Christ ces jours-là, parce que l'évangile avait été prêché, non seulement en parole, mais aussi en puissance. Dieu n'a jamais dit à personne de travailler pendant 30 ans pour ne rien récolter. Il nous a donné la porte ouverte de la parole et de la puissance. Et nous sommes censés en faire bon usage. C'est cela qui a donné à Paul un ministère grand et efficace. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Maintenant, écoutez bien. C'est pendant les mêmes voyages, alors que je prenais l'avion à New Salisbury, en Rhodésie, que je vis un groupe de 4 personnes avec des passeports américains. J'allais vers eux et leur dis, « Bonjour, je vois que vous avez des passeports américains. Vous êtes en voyage ?» Le jeune homme me répondit, « Non, nous sommes tous missionnaires ici. »« C'est très bien, dis-je. Êtes-vous indépendant ou bien travaillez-vous dans le cadre d'une organisation ?»« Nous sommes méthodistes. » Nous venons de Wilmore, dans le Kentucky, dit-il. Eh bien, dis-je, c'est tout près de chez moi. Alors, ne serez-vous pas ce frère Branham qui vient précisément de là-bas? J'ai dit, oui, c'est bien cela. Cela le refroidit complètement. Il ne voulut plus dire un mot. Il fallait voir les regards qu'il s'échangeait dans tous les sens, lui et les 3 demoiselles qui l'accompagnaient. Alors, j'ai dit, une minute, mon garçon. Je voudrais vous parler à vous tous de quelques principes puisque nous sommes entre chrétiens et que nous sommes ici pour une grande œuvre. Vous venez de me dire que vous êtes ici, tous les 4, depuis 2 ans. Pouvez-vous affirmer, dans le nom de Jésus, que vous pouvez mettre le doigt sur une seule âme que vous savez avoir gagnée au Seigneur? Il ne le pouvait pas. Je ne voudrais pas vous blesser, mademoiselle, dis-je, mais vous devrez être à la maison en train d'aider vos mères à faire la vaisselle. Vous n'avez rien à faire sur le champ de mission, à moins d'avoir été rempli du Saint-Esprit et de prêcher le vrai évangile par une démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Si vous ne voyez pas les résultats que Jésus a dit que vous verriez, c'est parce que vous ne prêchez pas le vrai évangile. Allons un pas plus loin. Je vais vous montrer ce qui peut se passer dans les champs de mission. Je ne dis pas que tout se passe ainsi, mais il faut reconnaître que c'est trop souvent le cas. Un jour, au cours de ces mêmes voyages, je visitais Durban avec le maire et je vis un indigène qui avait une étiquette accrochée au cou et qui portait une idole. Je demandai à mon ami la raison de cette étiquette. Il me répondit que lorsqu'un indigène se faisait chrétien, on lui mettait une étiquette. J'étais vraiment étonné car nous avions là un homme qui se prétendait chrétien et qui portait une idole. Je demandai comment c'était possible. Il dit, je connais sa langue, allons lui parler. Nous y sommes donc allés. Et le maire m'est servi d'interprète. Je demandais à l'indigène s'il était chrétien. Il affirma. Je lui demandai alors pourquoi il transportait cette idole, s'il était chrétien. Il répondit qu'elle lui venait de son père, qu'il avait porté avant lui. Quand je lui dis qu'aucun chrétien ne doit porter l'idole, il répondit que cette idole avait été très utile à son père. Je lui demandai en quoi. Il dit qu'un jour, son père, étant traqué par un lion, fit un feu, et parla à l'idole comme le sorcier le lui avait enseigné. Le lion s'en alla. Je lui dis alors que c'était le feu qui avait chassé le lion, parce que toutes les bêtes sauvages ont peur du feu. Je n'oublierai jamais sa réponse. Il dit, eh bien, voici, si, à Mohar, l'esprit échoue, alors cette idole réussira. On peut trouver un compte rendu détaillé de cette campagne d'évangélisation en Afrique dans les livres « Un prophète visite l'Afrique du Sud ». Voilà bien à quoi se résume la force des multitudes chrétiennes. Parce qu'elles n'ont pas reçu la parole par la porte ouverte originelle de la Pentecôte. Mais revenons à la porte ouverte sur l'action missionnaire de l'âge de Philadelphie. Cet âge n'a pas eu la porte ouverte avec la puissance qu'il aurait dû avoir. Remarquez que dans le même verset où il mentionne cette porte ouverte, il dit « Tu as peu de force ». C'est vrai, la puissance de l'esprit était absente dans cet âge. La parole avait été bien prêchée. Certainement qu'elle pouvait rendre sage à salut. Mais la grande puissance de Dieu, manifestant ses œuvres puissantes et découvrant son bras puissant en faveur de ses siens, était absente, sauf dans quelques groupes épars. Pourtant, Dieu soit loué. Cette puissance s'étendait et avait augmenté par rapport à ce qui existait au temps de la réforme. C'est dans cet âge qu'apparaît celui qu'on appelle souvent le père des missions, William Carey. un cordonnier de village, qui était pasteur de l'église baptiste particulariste de Moulton, en Angleterre, suscita de profonds remous dans la population en prêchant sur le sujet suivant. L'ordre donné aux apôtres d'aller enseigner toutes les nations n'était-il pas obligatoire pour tous les prédicateurs suivants, jusqu'à la fin du monde, vu que la promesse accompagnant ce commandement s'étendait également jusqu'à la fin du monde? Il fut combattu par les calvinistes, qui avaient poussé la doctrine de l'élection à l'extrême, croyant que tous ceux qui doivent être sauvés seront sauvés, et que le travail missionnaire était contraire à l'œuvre de l'Esprit. Mais André Fuller aida M. Curry par ses prédications et ses collectes. Leur effet fut tel qu'une société fut fondée en 1792 dans le but de répandre l'Évangile dans toutes les nations. Cette société envoya Curry, que Dieu bénit particulièrement en lui permettant de gagner des âmes en Inde. En 1795, une chrétienté mise en éveil créa la Société missionnaire de Londres, qui, comme le savons tous, recueille des millions de livres sterling et envoie des milliers de missionnaires d'année en année pour accomplir le désir du Seigneur. L'Esprit de Dieu était à l'œuvre. Encore d'autres brebis auraient bien pu être les cris du cœur de ces croyants fervents. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Je voudrais encore examiner ces mots. Je ne vais pas les dissocier du mouvement missionnaire, mais je vais vous présenter ici une pensée dont la portée se prolonge très loin dans le dernier âge. Comme je l'ai déjà dit, cet âge a des prolongements dans le dernier âge. C'est dans cet âge que Jésus a dit « Je viens bientôt » verset 11. Et c'est aussi chaud du dernier âge qu'il a dit qu'il allait consommer et abréger l'affaire en justice, parce que le Seigneur fera une affaire abrégée sur la terre. Romains chapitre 9 verset 28, version Darby. Remarquez comment est énoncé ce verset d'Apocalypse 3 verset 8. Porte ouverte, peu de force, parole, non. La porte ouverte se rapporte à ces trois choses. Or, que signifie la porte? Dans Jean chapitre 10 verset 7, il est dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis, c'est exact. Le je suis est la porte des brebis. Or, ceci n'est pas simplement une expression inusitée. Il s'agit d'un fait bien réel. Remarquez dans Jean 10, quand Jésus donne la parabole, il se donne le nom de berger. Il se donne aussi le nom de porte. Et c'est bien ce que le berger est pour les brebis. Il est réellement leur porte. Quand j'étais en Orient, j'ai observé que vers le soir, le berger rassemblait toutes ses brebis. Il les mettait dans la bergerie. Ensuite, il les comptait. Après s'être assuré qu'il n'en manquait aucune, il se couchait dans l'embrasure de la porte ouverte de la bergerie, devenant véritablement la porte de la bergerie. Personne ne pouvait entrer ou sortir, sauf par lui. Il était la porte. Le lendemain, alors que je me promenais en jeep avec un ami, je remarquai qu'un berger entrait dans la ville avec son troupeau. Immédiatement, toute la circulation s'arrêta pour laisser passer les brebis. Or, dans les villes orientales, ce n'est pas comme chez nous. Ici, nous gardons nos marchandises à l'intérieur. Mais là-bas, c'est comme dans un grand marché où les paysans posent les produits de leur ferme à même le sol et où les éventuels clients peuvent les examiner à leur guise. J'ai pensé, oh là là, il va y avoir toute une émeute. Attends un peu que ces brebis voient toute la nourriture qui est là. Mais les bergers marchaient devant elles et elle s'est contentée de les suivre fidèlement, pas à pas. Elle regardait toutes ces bonnes choses, mais pas une seule brebis n'y toucha. Oh, si j'avais connu leur langue, j'aurais moi-même arrêté la circulation pour leur prêcher un serment sur ce que je venais de voir. Si vous êtes des brebis qui appartiennent au grand berger, vous les suivez fidèlement, pas à pas, tout comme ces brebis-là. Vous ne serez pas tenté de vous retourner vers une belle église appétissante ou d'écouter la voix d'un docteur en théologie, en philosophie ou en droit, mais vous resterez avec le berger. La Bible dit que le brebis connaît sa voix et qu'elle le suive, alors que la voix d'un étranger les fait s'enfuir et courir vers leur vrai berger. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout ce que j'ai vu et appris là-bas. Un jour, je m'ai mis à penser aux hommes que j'avais vus garder différentes sortes d'animaux dans les champs. L'un d'eux gardait des porcs, un autre des chèvres, un autre des chameaux, un autre des mulets, ainsi de suite. Alors je demandais à un ami qui habitait cette région comment on appelait ces hommes-là. Oh, répondait-il, ce sont des bergers. J'avais la peine à l'admettre. Je lui dis, je ne vais pas dire qu'ils sont tous bergers. Les bergers sont ceux qui gardent les brebis et rien d'autre, n'est-ce pas? Non, dit-il. Un berger est quelqu'un qui garde ou qui fait paître des animaux. Par conséquent, tous ceux qui paissent des animaux sont des bergers. Eh bien, j'étais vraiment étonné, mais je remarquai qu'il y avait une différence entre ces gardiens-là et ceux qui s'occupaient des brebis. Les soirs venus, tous, à part le berger des brebis, laissaient leurs bêtes dans les champs et rentraient chez eux. Le berger, lui, prenait ses brebis avec lui, les conduisait dans la bergerie et se couchait à l'entrée, devenant ainsi la porte des brebis. Oh, gloire à Dieu! Notre berger ne nous délaisse jamais et il ne nous abandonne jamais. Quand le soir descend, je veux être dans sa bergerie, je veux être sous sa surveillance. Nous pouvons ainsi voir que Jésus est la porte. Il est la porte des brebis. Et remarquez bien qu'il est parlé maintenant de la porte qui s'ouvre. Qu'est-ce que c'est? C'est sinon une révélation de lui-même. Et cette révélation commence à se déployer pour nous apporter la force, pour éclairer la parole et glorifier son nom. C'est au cours des deux derniers âges que la révélation de la divinité de Jésus-Christ s'est ouverte devant nous. Oui, nous savons qu'il était Dieu. Sans cela, comment pourrait-il être notre sauveur? Mais de savoir qu'il était le seul Dieu, ou rien d'autre que Dieu, qu'il était l'alpha et l'oméga, que ce Jésus était à la fois Seigneur et Christ, étant ainsi le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de tout en une seule personne, tout cela avait été perdu dès les premiers âges de l'Église, mais maintenant nous le voyons de nouveau. Nous avons de nouveau la révélation de qui il était. En effet, la divinité n'est pas un Dieu en trois personnes qui n'aurait qu'une seule personnalité, puisqu'il faut une personnalité pour produire une personne. S'il n'y a qu'une personnalité, il n'y a qu'une personne. Par contre, ceux qui croient en trois personnes ont une divinité en trois dieux. Ils se rendent ainsi coupables d'avoir violé le premier commandement. Mais la révélation de la divinité nous est revenue. Maintenant, la vraie Église peut de nouveau augmenter en puissance. Après tous ces temps, elle sait enfin qui est son Seigneur. Nous baptisons de nouveau au nom du Seigneur Jésus, tout comme il le faisait à la Pentecôte. Je vais vous raconter un songe que Dieu m'a donné au sujet du baptême trinitaire. Ce n'était pas une vision, mais un songe. Vous savez, j'en suis sûr, qu'une de ces bénédictions des âges de l'Église était de recevoir des songes par le Saint-Esprit, exactement comme on peut recevoir des visions. C'était un samedi matin, vers 3 heures. Je m'étais levé pour donner un peu d'eau à Joseph. Quand je me suis recouché, je me suis tout de suite endormi et j'ai eu ces songes. Je voyais un homme qui était censé être mon père. Il était grand et robuste. Je voyais aussi une femme qui était censée être ma mère, mais qui ne lui ressemblait pas, de même que cet homme ne ressemblait pas à mon père. Cet homme était très méchant avec sa femme. Il avait en main un gros bâton à 3 arêtes. Vous savez, c'était comme la bûche triangulaire qu'on obtient quand on fend un rodin à la hache pour en faire du bois de chauffage. Il frappait sa femme avec ses bâtons jusqu'à ce qu'elle tombe. Et pendant qu'elle gisait en pleurs sur le sol, il marchait alentour en bombant les torses et le visage empreint d'un tel orgueil et d'une telle vantardise qu'il semblait particulièrement fier, content d'avoir tabassé une pauvre femme. Chaque fois qu'elle essayait de se relever, il la frappait. Comme je n'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il faisait, je pensais à l'arrêter, mais je me suis dit, je ne peux pas m'attaquer à cet homme. Il est bien trop grand. De plus, il est censé être mon père. Mais au fond de moi-même, je savais qu'il n'était pas mon père. Et je savais qu'aucun homme n'a le droit de traiter une femme comme cela. Je suis allé vers lui, je l'ai saisi au collet, je l'ai fait tourner sur lui-même et je lui ai dit, « Tu n'as pas le droit de la frapper. » Pendant que je disais cela, ma musculature augmentait et je suis devenu comme un géant. L'homme voyait cela, il a eu peur de moi et j'ai dit, « Si tu la frappes encore, tu auras affaire à moi. » Il n'osa plus la frapper, alors le songe me quitta. Je me réveillai tout de suite après ce songe. J'ai trouvé cela vraiment bizarre. Je me demandais pourquoi j'avais rêvé au sujet de cette femme. Quand soudain il vint, je reconnus la présence de Dieu et il me donna l'interprétation du songe. Et vous savez bien que non seulement j'ai interprété vos songes correctement, mais combien de fois ne vous ai-je pas moi-même raconté vos songes de sorte que vous n'avez pas eu besoin de me les dire? La femme représente l'Église du monde aujourd'hui. Je suis né au beau milieu de tous ces gâchis, de ces gâchis où elle se trouve. Elle était censée être une sorte de mère. Elle est la mère des prostituées. Son mari représente les dénominations qui la gouvernent. Les bâtons à 3 arêtes représentent les faux baptêmes trinitaires dans les trois titres. Chaque fois qu'elle essayait de se relever, c'est-à-dire chaque fois que les assemblées commençaient à accepter la vérité, il la faisait retomber au moins de cette fausse doctrine. Il était si grand que j'avais peur de lui au début. Mais dès que je me suis mis à l'attaquer, voilà que mes muscles s'étaient développés et remplis de force. C'était les muscles de la foi. L'enseignement de ces songes, c'était que, puisque Dieu est avec moi et qu'il peut me donner une telle force, alors il faut que je lutte pour l'Église contre les pouvoirs des dénominations du monde et que je m'oppose à lui pour qu'il cesse de la frapper. Je ne cherche pas du tout à construire une doctrine à partir des songes. Je ne cherche pas non plus à confirmer par un songe l'exactitude d'une doctrine que je soutiens. On peut voir l'unité de la divinité de Genèse chapitre 1 verset 1 à Apocalypse chapitre 22 verset 21. Mais les gens ont été aveuglés par un dogme de la Trinité, contraire à l'Écriture, et ce dogme est accepté d'une manière tellement universelle qu'il est pratiquement impossible d'essayer de voir la vérité. Un Dieu unique en une personne. Si les gens ne peuvent pas voir la vérité au sujet de la divinité, mais qu'ils s'y opposent, alors ils ne pourront jamais voir le reste de la vérité, car la révélation, c'est Jésus-Christ dans son Église et ses œuvres accomplies au sein de l'Église pendant les sept âges. Avez-vous compris cela? Je suis sûr que vous le comprenez. Tu as peu de force et tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Nous avons déjà parlé de la force qui était en train de revenir. C'est bien ce qui est arrivé. La puissance de l'Inquisition avait diminué. Des gens s'étaient expatriés et exigeaient la liberté des cultes. Les joues de la hiérarchie étaient en train d'être brisées. Le gouvernement trouvait sage de ne pas défendre un parti plutôt que l'autre. En fait, des gens mal dirigés, quoique bien intentionnés, étaient prêts à partir en guerre pour défendre leurs droits religieux. Peut-être que la plus grande démonstration des forces religieuses de cet âge a été le fait que le grand réveil wesleyen a empêché la révolution en Grande-Bretagne, alors que cette révolution secoua la France. Ainsi, la Grande-Bretagne fut gardée pour être un instrument dans la main de Dieu pendant de longues années glorieuses. Jamais la prédication et la parole n'aient pris une telle extension. Alors que Satan mettait en route ses hordes de libres penseurs, que ceux qui furent à l'origine du communisme s'élevaient, que les théologiens libéraux répandaient la sueur de leurs marchandises, Dieu suscita des puissants combattants de la foi et les plus grandes œuvres de littérature chrétienne, d'enseignement et de prédication viennent de cette époque. Jamais les prédicateurs et les docteurs de cet âge n'ont été égalés. Ils ne le seront jamais. Les Spurgeon, Parker, Marc Lawrence, les Edwards, Bunyan, Miller, Brainerd, Barnes, Bishop, tous sont de ces temps-là. Ils ont prêché, enseigné et écrit la parole. Ils ont glorifié son nom. Le jugement des faux juifs. Apocalypse chapitre 3, verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. Remarquons tout de suite que ce problème des faux juifs ou faux croyants existait déjà dans le second âge. Ceux qui prenaient faussement les noms de Jésus sont apparus immédiatement après la première effusion, celle du premier âge. Et voici qu'ils apparaissent de nouveau dans l'âge qui suit la réforme. On ne peut guère voir là quelque chose de purement accidentel. Cela n'a effectivement rien d'un hasard. C'est un principe de Satan. Ce principe est de former une organisation, de prétendre être ceux de l'origine et d'en tirer en conséquence des droits et des privilèges spéciaux. Je vais vous le montrer. Dans l'âge de Smyrne, il y avait ces gens qui mentaient en disant qu'ils étaient des juifs ou des croyants véritables, alors qu'ils ne l'étaient absolument pas. Ils étaient la synagogue de Satan. Ils étaient le groupe organisé de Satan. Car c'est dans cet âge que nous voyons les ministres prendre un pouvoir injustifié sur leurs frères dans les ministères, des évêques établis par district au-dessus des anciens. Ensuite, nous avons vu que dans le troisième âge, il y avait bien un endroit appelé le trône de Satan. Cet âge-là nous a donné le mariage de l'Église avec l'État. Appuyée par la puissance de l'État, l'Église devint réellement invincible sur le plan physique. Mais Dieu brisa cette emprise en dépit de la puissance de l'État et la réforme apporta une grande lumière. Mais que s'est-il passé? Les luthériens se sont organisés et joints à l'État. et nous voyons de nouveau la synagogue de Satan manifestée dans ce sixième âge. Bien sûr, ceux de cette synagogue n'admettront pas qu'ils sont de Satan. Non, messieurs, ils disent qu'ils sont de Dieu, mais ils mentent, car celui qui est un vrai juif, et c'est ce qu'il prétendait être, c'est celui qui est juif intérieurement, en esprit. Ainsi, s'ils sont des faux juifs, cela signifie qu'ils sont comme il est dit dans Jude 19, n'ayant pas l'esprit. Les enfants de Dieu sont nés de l'esprit. Ceux-ci n'ont pas l'esprit, et par conséquent, ce ne sont pas les enfants de Dieu, malgré toutes leurs protestations et quoi qu'ils fassent pour essayer de prouver qu'ils le sont. Ils sont morts. Ce sont des enfants de l'organisation. Ils ne portent pas les fruits véritables. Ils sont édifiés sur la base de leurs propres credo, dogmes et doctrines, et la vérité n'est pas en eux, car ils ont mis leur propre dessein au-dessus de la parole de Dieu. Je vais vous montrer ce que je me suis efforcé d'enseigner tout au long de cet exposé, au sujet des devines qui proviennent de deux esprits différents. Cette fois, prenons l'exemple de Jésus et de Judas. Jésus était le fils de Dieu. Judas était le fils de perdition. Dieu est entré en Jésus. Satan est entré en Judas. Jésus avait un ministère plein de Saint-Esprit. Car, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Car Dieu était avec lui. Actes chapitre 10, verset 38. Il est dit, il, Judas, était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Actes chapitre 1, verset 17, Matthieu chapitre 10, verset 1. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Cet esprit, qui était en Judas, a poursuivi son chemin tout au long du ministère de Jésus. Puis, tous les deux arrivèrent à la croix. Jésus fut pendu à la croix, donnant volontiers sa vie pour les pécheurs et remettant son esprit à Dieu. Son esprit est allé vers Dieu pour être ensuite déversé dans l'église à la Pentecôte. Mais Judas s'est pendu et son esprit est retourné à Satan. Mais après la Pentecôte, ce même esprit qui est en Judas est descendu dans la fausse vigne qui pousse côte à côté avec la vraie vigne. Mais remarquez, l'esprit de Judas n'est pas arrivé jusqu'à la Pentecôte. Il n'est jamais allé recevoir le Saint-Esprit. Cela lui était impossible. Mais que rechercherait cet esprit de Judas? Il recherchait la bourse pleine d'or. Comme il aimait l'argent, il l'aime toujours. S'il s'agit de ci, de là au nom de Jésus, accomplissant de grandes choses et tenant d'importantes réunions, ce qui compte le plus pour lui, c'est encore l'argent, le bâtiment, l'instruction et tout ce qui est de conception purement matérialiste. Observez bien l'esprit qui est sur eux et ne vous laissez pas séduire. Judas faisait partie des 12, et il faisait des miracles lui aussi, mais il ne possédait pas l'esprit de Dieu pour lui-même. Ce qu'il avait, c'est un ministère. Il n'est jamais allé jusqu'à la Pentecôte, car il ne faisait pas partie de la vraie sémence. Il n'était pas un véritable enfant de Dieu. Non, messieurs, et maintenant même, c'est comme cela que les choses se passent dans la synagogue de Satan. Ne vous laissez pas séduire. Vous ne vous laisserez pas séduire si vous faites partie des élus même. Jésus a dit que vous ne vous laisserez pas séduire. Oui, ces gens disent qu'ils sont des chrétiens, mais ils n'en sont pas. Je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que j'étais aimé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Ne savez-vous pas que le Saint jugera le monde? Il n'y aura pas seulement 12 apôtres assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël, mais le Saint également jugera le monde. C'est là que ceux qui prétendent appartenir à Dieu et qui prétendent que Dieu les aime verront exactement ce qui est enfant de Dieu et qui est aimé du Fils. Oui, le jour vient où tout cela sera rendu manifeste. Ceux qui, actuellement, gouvernent le monde dans une certaine mesure et qui, pendant les derniers âges, érigeront à la bête une image au moyen de laquelle ils gouverneront vraiment le monde. Ceux-là seront humiliés un jour quand Jésus viendra avec ses saints pour juger le monde selon la justice. C'est exactement ce que nous avons vu dans Matthieu chapitre 25, où tous ceux qui ont manqué la première résurrection comparaîtront devant les juges et son épouse. L'éloge et la promesse. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va venir sur la terre habitée tout entière, pour éprouver ceux qui habitent sur la terre. Version Darby. Qu'entend-il par la parole de sa patience? Hébreux chapitre 6, versets 13 à 15. Car lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, puisqu'il n'avait personne de plus grand par qui jurer, il jura par lui-même, disant, « Certes, en bénissant, je te bénirai, et en multipliant, je te multiplierai. » Et ainsi Abraham, ayant eu patience, obtint ce qui avait été promis. Version Darby. Voyez-vous, l'Esprit parle de la parole de Dieu qui nous est donnée. Attendre l'accomplissement de cette parole me demandait de la patience, comme cela a été le cas pour Abraham. Il a persévéré, comme voyant celui qui est invisible. Il a été patient, et à la fin, la parole s'est accomplie. Voilà comment Dieu enseigne la patience à son peuple. Bien sûr, s'il accomplissait sa parole par une manifestation matérielle au moment même où vous priez, vous n'apprendrez jamais la patience, mais vous deviendrez encore plus impatient face à la vie. Laissez-moi vous présenter cette vérité de façon encore plus complète. Hébreux chapitre 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, la parole de Dieu. C'est bien cela. Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la parole de la promesse. La plupart pensent que dès le moment où nous prions dans le nom de Jésus pour recevoir les bonnes promesses de Dieu, il ne peut pas y avoir de mise à l'épreuve. Mais ici, il est dit qu'Abraham a été mis à l'épreuve après avoir reçu la promesse. C'est tout à fait exact selon le psalmiste qui fait référence à Joseph. Psaume 105, verset 19. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit, la parole de l'Éternel l'éprouva. Version Darby. Dieu nous a fait les plus grandes et les plus précieuses promesses. Il a promis de les accomplir. Il les fera. Mais entre le moment où nous prions et celui où nous recevons la réponse, nous devons apprendre à recevoir la patience dans notre âme. Car c'est seulement dans la patience que nous possédons la vie. Puisse Dieu nous aider à apprendre cette leçon, comme nous savons que ceux du sixième âge ont eux-mêmes appris la patience. Nous pouvons lire la biographie de ces grands chrétiens. Quel contraste nous voyons entre leur vie et la nôtre. Ils étaient si paisibles et patients, alors qu'aujourd'hui, nous sommes emportés par notre impatience et notre hâte. Il leur dit ensuite, « Parce que tu as accepté ma parole et que tu l'as vécu, devenant ainsi patient, je te garderai de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Une fois de plus, nous voyons que les deux âges se recouvrent, car cette promesse se rapporte à la fin du temps des nations qui aboutit dans la grande tribulation. Je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ces versets ne déclarent pas que la vraie Église entrera dans la tribulation et la subira. Si c'était le cas, il l'aurait dit. Mais il dit, je te garderai de l'heure de la tentation. Cette tentation est tout à fait comme la tentation de l'Éden. Ce sera une proposition très attrayante faite en contradiction directe avec ce qui nous est ordonné dans la parole de Dieu. Pourtant, si on la considère par les raisonnements humains, elle sera tellement juste. Elle apportera tellement de lumière et de vie qu'elle séduira complètement le monde. Seuls les élus ne se laisseront pas séduire. La tentation viendra de la manière suivante. Le mouvement écuménique, qui est parti sur un principe si beau et si béni, en apparence d'accomplir la prière de Christ, que nous sommes tous un, devient tellement fort politiquement qu'il fait pression sur les gouvernements pour en arriver à ce que tous s'y rattachent directement ou adhèrent à des principes qu'il a édictés et qui auront reçu force des lois en sorte que personne ne serait reconnu comme étant réellement une église à moins de se soumettre directement ou indirectement à ces conseils écuméniques. Le petit groupe perdront leur statut, leurs privilèges, ainsi de suite, jusqu'à perdre même leurs biens matériels et leurs droits d'assistance spirituelle. Par exemple, dans beaucoup de villes, si ce n'est dans la plupart, on ne peut pas louer un local pour y tenir des services religieux sans l'approbation du conseil ecclésiastique local. Pour devenir aumônier à l'armée, dans les hôpitaux, ainsi de suite, il est pratiquement obligatoire d'être reconnu par les groupes trinitaires écuméniques. À mesure que cette pression s'accroîtra, et elle s'accroîtra effectivement, il deviendra de plus en plus difficile de résister, car résister signifie perdre ses privilèges. C'est pourquoi beaucoup seront tentés de suivre le mouvement, car ils auront le sentiment qu'il est préférable de servir Dieu publiquement dans le cadre de cette organisation plutôt que de ne pas du tout les servir publiquement. Mais il se trompe. Croire au mensonge du diable, c'est servir Satan. Même si vous voulez lui donner le nom de Jéhovah, mais les élus ne seront pas séduits. De plus, les élus seront non seulement gardés, mais quand ce mouvement sera devenu l'image érigée à la bête, les saints auront déjà été emportés dans l'enlèvement. Et ce petit mouvement séduisant et plein d'attrait, qui avait débuté dans un esprit de communion à Éphèse, deviendra le monstre de Satan, qui suivra et séduira le monde entier, car, en s'associant, les systèmes des églises catholiques romaines et protestantes auront la haute main sur toutes les richesses et la puissance du système mondial, et feront ainsi tomber dans leur piège religieux le monde entier, et feront périr ceux qui refusent de marcher avec eux, en leur refusant les privilèges d'acheter et de vendre ce qui est indispensable pour pouvoir vivre. Tout cela s'accomplira très simplement, car les filles de la prostituée sont pratiquement déjà retournées auprès d'elle. En attendant, Rome a acquis presque toutes les réserves d'or. Les juifs ont les titres et tout l'argent. Au temps marqué, la prostituée détruira le système monétaire actuel en faisant rentrer tout l'argent et en exigeant l'or. Sans or, le système s'effondre. Les juifs seront acquis et entreront dans l'alliance, et l'église prostituée prendra le contrôle du monde entier. La promesse faite aux siens. Apocalypse chapitre 3, versets 11 et 12. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Nous n'avons pas besoin de nous étendre plus longuement sur le fait qu'il vient bientôt. Nous savons que c'est ainsi, parce que nous sommes à la fin des derniers jours, n'est-ce pas? Mais il dit ensuite, « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » C'est dans une période de grande difficulté que Jésus vient. Et sa venue est accompagnée d'une résurrection. Beaucoup sortiront de la poussière, ils ressusciteront pour être avec ceux qui sont encore vivants, mais qui attendent son retour. Ils recevront des couronnes. Pourquoi? Parce qu'ils sont fils de Dieu. Ils sont rois avec lui. Ils règnent avec lui. Voilà ce que signifie la couronne, régner et gouverner avec le grand roi lui-même. C'est la promesse faite à tous ceux qui ont souffert ici sur la terre avec lui. Tous ceux qui ont supporté avec patience, sachant que Dieu, le juste juge, les récompenserait. Ceux qui ont tout abandonné pour lui et qui ont tout remis entre ses mains s'assieront avec lui sur son trône et ils auront part à son règne glorieux. Oh, une parole nous a été donnée pour ce temps. Tiens ferme, persévère, n'abandonnez pas. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Utilisez chaque arme qu'il nous a donnée. Prenez chacun des dons qui sont à notre disposition et regardez l'avenir avec joie, parce que nous allons être couronnés par celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Or, non seulement il donne des couronnes, mais il dit que ceux qui font partie de l'épouse deviendront des colonnes dans le temple de Dieu. Mais le temple de Dieu, qu'est-ce que c'est? Jésus parlait de son corps en disant que c'était là le temple. Et c'était bien ce qu'il était. Son corps était le temple de Dieu. Mais maintenant que nous sommes son corps, c'est la vraie église qui est le temple de Dieu par le Saint-Esprit qui est en nous. Maintenant, il va faire de celui qui vaincra une colonne dans ce temple. Mais qu'est-ce qu'une colonne? Une colonne, en fait, c'est une partie de la fondation, car elle soutient la superstructure. Gloire à Dieu! Voilà qui met les vainqueurs sur le même plan que les apôtres et les prophètes, car il est dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 22. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Oui, ce verset 20 dit bien que nous faisons, comme eux, partie de l'édifice. Tout a dû passer par la porte, Jésus, et fait partie de ses corps, ou temple. Or, quand Dieu place un homme dans le temple pour en faire une colonne, qu'il fait de lui une partie de ce groupe qui constitue le fondement, que fait-il en réalité? Il lui donne la révélation de la parole et de lui-même. Parce que C'est exactement ce qu'ont reçu les apôtres et les prophètes. Matthieu chapitre 16, verset 17. Il est là, dans la parole. C'est là qu'il se tient. Personne ne peut l'en faire sortir. Pesez bien ces mots. Vaincra. Jean pose la question. Qui est celui qui est victorieux? Et la réponse vient immédiatement. Celui qui croit que Jésus est le Christ. Il n'est pas dit que le vainqueur est celui qui croit en un Jésus et un Christ. Mais celui qui croit que Jésus est le Christ. Une seule personne, pas deux. C'est celui qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle ici de l'épouse. Voulez-vous voir une autre image d'elle? On la trouve plus loin dans Apocalypse chapitre 7, versets 4 à 17. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben, 12 000, de la tribu de Gad, 12 000, de la tribu d'Azer, 12 000, de la tribu de Nephtali, 12 000, de la tribu de Manassé, 12 000, de la tribu de Siméon, 12 000, de la tribu de Lévi, 12 000, de la tribu d'Issacar, 12 000, de la tribu de Zabulon, 12 000, de la tribu de Joseph, 12 000, de la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils le criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen. » La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus ?» Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur son trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les pétera et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Jésus est venu, il a marqué du sceau les 144 000, il en a pris 12 000 de chaque tribu. Mais il y a un autre groupe qui ne fait pas partie de ces 144 000. Nous les voyons dans les versets 9 à 18. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui font partie de l'épouse prise parmi les nations. Ils sont devant son trône jour et nuit, et ils les servent dans les temples. Le Seigneur prend un soin particulier d'eux, et ils sont son épouse. L'épouse suit l'époux partout où il va. Il ne l'abandonnera jamais. Elle sera toujours à ses côtés. Elle partagera le trône avec lui. Elle sera couronnée de sa gloire et de son honneur. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Et quel est le nom de Dieu? Eh bien, il était Dieu avec nous, Emmanuel. Mais ce n'est pas le nom qui lui a été donné. Ce lui donnera le nom de Jésus. Jésus a dit, « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. » Par conséquent, le nom de Dieu est Jésus, car c'est en ce nom-là qu'il est venu. Il est le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, quel nom une femme prend-elle quand elle se marie avec un homme? Elle prend son nom à lui. C'est son nom à lui qui sera donné à l'épouse quand il la prendra avec lui. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 4. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Comme c'est merveilleux, toutes les merveilleuses promesses de Dieu seront accomplies. ce sera terminé. Le changement aura été accompli. L'agneau et son épouse, définitivement installés dans toute la perfection de Dieu. Décrire cela, qui pourrait le faire? Personne. Y penser, en rêver, lire ce que la parole en dit, bien sûr. Nous pouvons faire tout cela. Pourtant, nous ne pouvons en connaître qu'une partie infinitésimale jusqu'au moment où tout cela deviendra une réalité dans la première résurrection. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé, alors il prendra un nom nouveau. Et ce nom sera également le nom de l'épouse. Quel est ce nom? Que personne n'ait l'audace de faire des conjectures. Il faudrait que ce soit une révélation donnée par l'Esprit, tellement concluante que personne n'oserait la contester. Mais il laissera sans aucun doute cette révélation pour le jour où il désirera dévoiler ses noms. Qu'il nous suffise de savoir qu'il sera bien plus merveilleux que nous ne pourrons jamais l'imaginer. La dernière exhortation de cet âge. Apocalypse chapitre 3 verset 13. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Chaque âge reçoit pour finir le même avertissement. C'est l'exhortation constante aux églises, pour qu'elles écoutent la voix du Seigneur. Dans cet âge, l'exhortation est encore plus pressante que dans les âges précédents. Car dans cet âge, la venue du Seigneur est vraiment proche. On pourrait se poser cette question. S'il y a un autre âge après celui-ci, pourquoi cette urgence? Voici la réponse. Le dernier âge sera court, une œuvre rapide pour tout consommer. Non seulement il en sera ainsi, mais il faut aussi toujours garder en mémoire qu'aux yeux des dieux, le temps est quelque chose de tellement fugitif. En effet, 1000 ans sont comme un jour, et s'il vient dans quelques heures, selon sa vision du temps, alors bien sûr, il doit nous avertir en toute urgence, et sa voix doit résonner constamment dans nos cœurs afin que nous soyons prêts pour sa venue. Oh, il y a tant de voix dans le monde, tant de problèmes et de besoins qui insistent pour avoir notre attention, mais aucune voix ne sera jamais aussi importante et aussi digne de notre attention que la voix de l'Esprit. Alors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises.